OK, alors bienvenue dans le cours que les nations se réjouissent. J'étais content, là, j'ai vu les résultats des inscriptions, tout ça, c'était encourageant. Je vous encourage à vous procurer le livre si ce n'est pas déjà fait. Il est 5 $, c'est dur à battre. Je pense qu'il n'y a personne qui fait de l'argent avec ça. C'est vraiment pour la cause, c'est tout, là. Et donc, on vous encourage juste à aller vous procurer le livre. Ça vaut vraiment, vraiment la peine de prendre le temps de le lire. On va aller ensemble dans un mot de prière, puis on va introduire ce cours-là. On va commencer ça ensemble, d'accord? Père éternel, nous voulons te remercier pour ce beau dimanche, Seigneur, où les églises un peu partout dans le monde sont en train de se retrouver, de se rassembler pour célébrer ton nom, célébrer ta gloire, Seigneur. Et je suis content d'être avec l'église ce matin, content de pouvoir attaquer ce sujet-là ensemble, Seigneur, explorer cette question de la mission sous l'angle de l'adoration, Seigneur. Père, je te prie de venir nous faire grandir à travers cette session, dans notre compréhension, dans notre vision, dans notre appréciation de la mission vraiment, Seigneur, et que ça puisse devenir une seconde nature pour nous, une passion pour nous de voir le monde autour de nous avec le même regard que toi tu as, Seigneur. Que ce ne soit pas un fardeau qu'on porte, mais que ce soit déjà pour nous un acte d'adoration, tout simplement de parler de toi avec beaucoup de liberté, Seigneur. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen. Amen. Alors, j'ai mis, je ne sais pas si vous avez pris les feuilles de notes. Alors, des petites informations techniques, il y a des feuilles de notes sur la table là-bas. Je ne suis pas certain si vous avez reçu à travers la liste d'envoi déjà hier ou si ça va être cette semaine. Ceux qui ont marqué leur nom pour la liste d'envoi, vous allez recevoir chaque semaine les notes de cours. Et en principe, on doit avoir une feuille pour rajouter des noms sur la liste d'envoi. Sais-tu si on en a? On en a? Génial, super. Et puis, c'est toi, Annie, qui a les livres ici? Donc, s'il y en a qui veulent acheter le livre, vous n'en avez pas besoin pendant le cours ce matin. Si vous voulez l'acheter après, venez voir Annie, d'accord, pour vous procurer le livre. C'est vraiment un excellent livre sur la mission. Puis, ce que vous allez trouver d'autres livres sur la mission n'aura pas le même angle. Je reviens là-dessus, là, je suis en train de me devancer un peu. J'ai mis en page titre de la leçon une citation de John Piper. « Le but suprême de l'Église n'est pas la mission, c'est l'adoration. » Si la mission existe, c'est parce que l'adoration n'existe pas. Puis ça résume en gros tout ce qu'on va voir à travers la session. Et donc, ma prière, comme j'ai exprimé tout à l'heure, c'est que ce cours-là vienne changer votre vision de la mission, que vous puissiez vraiment apprécier davantage le cœur de Dieu pour la mission, puis comprendre quelle est la passion de Dieu pour sa mission à lui, dans laquelle il nous a engagés ensemble. D'accord? C'est une première à l'Église de l'Espoir. À ma connaissance, on n'a jamais eu de cours biblique sur la mission. Et lorsqu'on entend le mot mission ici, on entend la mission à l'étranger, la mission au Québec, notre mission locale. C'est tous les efforts par lesquels les chrétiens dans le monde sont en train d'annoncer l'Évangile de Jésus-Christ. D'accord? Quand vous pensez mission pendant le cours, pensez-le dans ce sens-là. On va parler beaucoup de mission à l'étranger. On va parler de mission régionale, on va parler de mission locale. Mais c'est dans ce sens-là qu'on est en train de le dire. Et à ma connaissance, on n'a jamais eu un cours sur la mission à l'Église de l'Espoir depuis son existence. Pas en tout cas un cours grand public, peut-être des cours avancés avec notre séminaire Sambec. Dieu aime les êtres humains. Dieu les aime passionnément. Dieu est passionné pour sa mission parce que littéralement, il est en amour avec l'humanité. Il l'a démontré à la création parce qu'il nous a créés à son image, supérieur aux anges à bien des égards, parce que créé à son image, ça dit déjà énormément combien il aime l'être humain, mais il l'a démontré de manière absolument extraordinaire en envoyant son fils mourir sur la croix. Donc, lorsqu'on parle de mission, on est en train de parler en réalité de la mission de Dieu. Lorsqu'on parle d'être passionné pour la mission, c'est simplement que notre prière, c'est d'avoir un cœur qui bat au même rythme que le cœur de Dieu, c'est d'être passionné pour ce qui passionne Dieu. C'est simplement ça l'idée, parce que Dieu a vraiment à cœur la mission. Dieu est en amour avec l'humanité. Alors pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on voulait faire un cours sur la mission? Peut-être pour vous faire connaître l'histoire de l'Église de l'Espoir un petit peu plus, vous faire connaître un peu plus les valeurs fondamentales de cette Église-là. La mission a toujours été quelque chose d'extrêmement important à l'Église de l'Espoir. C'est vrai pour des millions d'églises dans le monde, vous allez me dire, mais c'est vrai pour l'Église de l'Espoir aussi. La mission a toujours été super importante. L'Église s'est toujours investie dans la formation d'ouvriers, dans la formation de missionnaires, dans le soutien missionnaire, dans des missions court terme, dans des missions locales, à l'étranger, au Québec. Ça a toujours été au cœur de cette Église-là. Et une des raisons pour ça, un peu comme toutes les Églises dans le monde, c'est que l'Église de l'Espoir est le fruit d'une œuvre missionnaire importante. Alors, l'Église de l'Espoir, c'est deux Français qui quittent leur terre d'origine, qui quittent leur patelin, M. et Mme Beau, qui s'en viennent au Québec, qui vont implanter avec M. et Mme Fré l'Église de Rosemont à Montréal dans notre association d'Églises, qui vont ensuite de ça se séparer d'eux pour venir implanter l'Église à Longueuil, qui vont implanter l'Église de Saint-Hilaire, qui vont superviser, appuyer l'implantation d'autres œuvres, d'autres églises encore. Et donc, cette Église-ci, comme toutes les églises dans le monde, puis on pourrait dire, comme toutes les nouvelles naissances spirituelles, sont le fruit d'une œuvre missionnaire. Votre conversion à vous, le fait que vous soyez chrétien, d'une manière absolue, c'est aussi le fruit d'une œuvre missionnaire. Il y a quelqu'un qui a décidé de vous partager l'Évangile. Mais directement ou indirectement, c'est aussi le fruit d'une œuvre missionnaire d'un étranger qui a parlé de l'Évangile à un étranger. L'Évangile rentre dans une famille, puis après ça, la famille parle de l'Évangile. Mais avant que l'Évangile rentre dans la famille, c'est un étranger qui va accoster. C'est un ami qui a été abordé par un étranger. C'est toujours ça. C'est toujours comme ça. Puis c'est comme ça que l'Évangile se répand dans le monde. Une nouvelle naissance à la fois, le résultat du fruit d'une œuvre missionnaire à la fois. Et c'est vrai pour chacune des églises qui existent dans le monde. C'est particulièrement vrai ici au Québec. Le Québec a vu trois vagues d'efforts missionnaires depuis la colonisation française, d'accord? L'Évangile est arrivé avec la colonie au départ. Des Huguenots étaient présents, des protestants qui avaient un Évangile tout à fait compris, comme on le voit dans les Écritures, comme on l'enseigne ici, et qui annonçaient cet Évangile-là. Ça a été une première vague d'évangélisation. Cette vague-là a été interrompue par un effort très, très, très systématique de l'Église catholique qui a envoyé des Jésuites pour s'assurer que les protestants ici soient éradiqués ou persécutés pour qu'ils puissent fuir, vague de migration vers les colonies anglaises, d'accord? Ensuite de ça, on a eu une deuxième vague sous Henriette Feller, à l'époque de M. Chiniki. Deuxième vague d'évangélisation, celle-là aussi a été enrayée pratiquement complètement. Puis la troisième vague est venue dans la suite de la Révolution tranquille. Dans la suite de la Révolution tranquille au Québec, il y a eu une grande liberté qui s'est ouverte. Il y a eu énormément de Québécois qui ont quitté les églises catholiques, mais en quête quand même du christianisme. Et donc ouverts à entendre parler d'un christianisme qui ne va pas être simplement institutionnel, avec plein de mystères, puis avec une grande séparation entre le clergé et les membres, mais plutôt un christianisme où ils vont être invités eux-mêmes à découvrir la Bible, puis à ouvrir les Écritures, puis à découvrir l'Évangile. Et donc, entre les années 1950 et 1980, par exemple, dans notre association d'Église, qui est la plus grosse association d'Église au Québec, soit dit en passant, il y a le district des Assemblées Pentecôtes qui sont à peu près aussi nombreux que nous, puis après ça, toutes les autres familles d'Église sont beaucoup, beaucoup, beaucoup moins nombreuses que nous. Donc, on parle dans notre cas à nous d'environ 86-87 Églises, d'accord? Entre 1950 et puis 1980, on passe de 3 ou 4 églises à quelque chose comme 50-quelques églises, d'accord? Et puis ensuite de ça, ça continue à croître, ça continue à avancer. Donc cette église-ci est le fruit d'une œuvre missionnaire de gens qui ont quitté leur terre natale, qui sont venus vers des étrangers, puis qui sont allés leur apporter le message de l'Évangile. Et c'est le cas aussi pour l'histoire de votre propre conversion. À travers son histoire, l'Église de l'Espoir s'est investie dans la mission locale, provinciale, canadienne, à l'étranger. On consacre près de 10 % de notre budget à la mission extérieure à l'Église, pas à nos efforts d'évangélisation locale, mais vraiment à l'extérieur. Donc, près de 10 % est consacré à ça. À chaque année, pratiquement, on a des missionnaires court terme qui partent. L'Église a envoyé des pasteurs pour implanter des églises à l'extérieur de cette Église-là. Il y a des missionnaires qui ont quitté cette Église-ci pour aller sur le champ missionnaire. Et on espère, on prie pour qu'il y en ait d'autres. Puis peut-être que c'est ça qui va se passer avec vous pendant ce cours-là. Peut-être que Dieu va vous appeler. Premièrement, une mission locale. Puis peut-être au Québec, peut-être à l'étranger. Une des choses qu'on veut faire à travers le cours, c'est approfondir notre théologie de la mission. Si on veut être passionné pour la mission, il faut avoir des convictions profondes. Pourquoi est-ce que c'est important? Pourquoi est-ce que Dieu aime la mission? Toute notre passion découle de ces convictions-là. Et donc, on veut affermir notre théologie de la mission pour que ça produise des fruits durables en nous, une passion durable en nous, pour prier pour la mission, pour s'engager, pour supporter les missionnaires financièrement, pour aider à former des missionnaires ici, puis pour s'investir dans la mission locale ici. Alors, c'est quoi le but du cours? Si vous pouvez aller à la page suivante, quel est le but du cours? Je m'excuse, j'ai pas de PowerPoint ce matin, mais c'est parce que j'étais à l'extérieur cette semaine. Donc, on a fait un livrable vraiment sur les chapeaux de roue. Quel est le but du cours? Le but, puis en plus, il y a plein de fautes de français. Le but de ce cours est de grandir en Église dans notre théologie de la mission et notre passion pour la mission en réalisant la passion de Dieu pour la mission. Je sais qu'il y a plein de missions. Je me le disais, puis j'ai dit, ça en fait beaucoup. Mais c'est vraiment ça, d'accord? Donc, le but, c'est de grandir en Église dans notre théologie de la mission et notre passion pour la mission en découvrant quelle est la passion de Dieu pour la mission. Parce que Dieu est vraiment passionné. Sans l'ombre d'un doute, on peut dire que c'est l'une des choses qui passionne le plus Dieu actuellement dans l'univers, c'est la mission. Vous allez comprendre pourquoi au fur et à mesure qu'on va avancer dans le livre. Alors, pourquoi avoir pris ce livre-là? Bien, comme j'ai mentionné, profitez-en, là, saisissez l'opportunité, il est vraiment, vraiment pas cher. Mais pourquoi est-ce qu'on l'a pris? John Piper, l'auteur, c'est quelqu'un personnellement que j'admire depuis des années. C'est certainement le prédicateur qui m'a le plus influencé dans ma vie. Mais il m'a beaucoup influencé, je l'ai beaucoup admiré, cet homme-là, parce qu'il possède un don particulier pour prendre des concepts, des vérités, des doctrines souvent mystérieuses, complexes sur la personne de Dieu, sur le cœur humain, des choses comme ça. Puis quand il prend ça, pour lui, ça a toujours des implications concrètes et pratiques. Toujours. Comme les puritains. Si vous avez déjà lu les puritains, vous êtes dans des concepts doctrinaux super lourds, super complexes. Ils vont attaquer tous les mystères qu'il y a dans les Écritures. Et en même temps, chaque fois qu'ils font ça, cela a toujours des implications concrètes pour leur cœur, pour leur quotidien. Et c'est une des choses que j'admire le plus avec John Piper. Puis dans ce livre-là, il le fait vraiment avec brio par rapport à la mission. Il prend une des questions les plus complexes des Écritures, une des choses les plus difficiles à accepter pour le cœur humain. Et puis, il rend ça extrêmement pratique avec la mission. Si vous allez au paragraphe suivant, « Dieu a absolument tout créé pour sa gloire », vous allez avoir l'impression qu'on fait un détour, là. Dieu a absolument tout créé pour sa gloire. Il est profondément passionné de sa propre gloire. Et vous allez voir lorsqu'on va le développer à travers le chapitre 1, mais ça, c'est au cœur de la mission. Maintenant, les chrétiens, on utilise le langage de l'adoration facilement. On va dire qu'on vient le dimanche pour adorer et tout ça. Mais juste l'idée de dire, ce que Dieu aime le plus, ce qui excite le plus Dieu, ce qu'il y a de plus grand, de plus noble pour Dieu, c'est sa propre gloire. Cette idée-là, pour des Occidentaux, il y a quelque chose d'étrange dans ça. On a l'impression que ça veut dire que Dieu est un être peut-être assez vaniteux en fin de compte, qui comme, il se regarde dans le miroir puis il dit « Wow, je suis beau ce matin ». Je m'aime. Et on comprend mal la logique absolue de ce raisonnement-là. Toute autre manière de voir les choses concernant Dieu ne ferait aucun sens sur la personne de Dieu. Et j'espère qu'à travers le chapitre 1, on va pouvoir clarifier ça dans votre esprit, que ça va pouvoir s'établir solidement. Dieu est absolument passionné par sa propre gloire. Et ça, c'est la démonstration de sa perfection, de sa sagesse absolument parfaite. Et on va développer ça ensemble. C'est une des choses qui sont les plus difficiles à énoncer, peut-être à accepter aussi pour l'Église occidentale. Je ne pense pas que c'est le cas partout dans le monde ailleurs. Mais pour l'Église occidentale, c'est très, très difficile à comprendre puis à accepter comme concept. John Piper amène ça vraiment au cœur de la vision de la mission. Et ça, j'ai trouvé ça super précieux. Pourquoi prendre ce livre-là? Un petit peu plus loin, j'écris 3-4 paragraphes plus loin. Nous avons choisi ce livre parce que nous voulons que vous soyez heureux, profondément heureux. Vraiment, vraiment, vraiment heureux. La vie en général est difficile. D'accord? Il y a des moments, puis on vit dans une des places dans le monde où la vie est le moins difficile. Puis pourtant, les antidépresseurs, c'est monnaie courante. On va chercher ça pratiquement au guichet automatique, d'accord? Mais on vit dans un des endroits dans le monde où la vie est le moins difficile, puis on est obligé d'admettre que la vie est difficile, d'accord? Ajoutez à cela tout ce que Dieu demande d'un chrétien. Tout ce que Dieu demande comme passion, comme dévouement, comme service, comme renoncement à soi de la part d'un chrétien, ça peut devenir extraordinairement lourd pour ça. Et pourtant, si c'est lourd, c'est soit que l'enseignant en avant enseigne vraiment pas bien la parole de Dieu, d'accord? C'est peut-être le cas. Ou soit qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas saisi ou que j'ai pas saisi dans l'Évangile. Parce qu'en réalité, Dieu nous dit qu'il y a vraiment une joie profonde, un bonheur énorme à marcher dans ses voies puis à être passionné de ce qu'il passionne. Même si ça implique de renoncer à nous-mêmes, puis si ça implique beaucoup de souffrance, il y a une joie profonde qui est là, qui dépasse les souffrances du quotidien. Il y a une paix qui est là, qui dépasse toutes les souffrances qui viennent au quotidien, parce que je suis là en train de poursuivre ce qui passionne Dieu, puis je suis entré dans son œuvre. Donc, ce n'est pas une petite ambition qu'on a avec le cours. Notre ambition, c'est que vous compreniez vraiment la passion de Dieu pour la mission, puis que ça vous apporte une joie profonde, réelle, qui dépasse les souffrances du quotidien, les frustrations du quotidien, les moments où on dit « mais ça ne sert absolument à rien cette vie-là, je ne comprends pas, qu'est-ce qui se passe avec autant de souffrances, autant m'en aller maintenant, autant m'en aller maintenant rejoindre le Seigneur. » Et si je comprends bien la passion de Dieu pour la mission, cette pensée-là n'est plus admissible. Puis elle est remplacée pas par un devoir religieux, puis la mission, c'est dur, puis il faut encore faire plus, puis il faut aller servir le Seigneur, puis il faut encore donner plus de notre énergie, puis encore donner plus de notre temps. Pas du tout. Ça devient une passion profonde. Et ce qui nous passionne, c'est pas l'eau. Des fois, je parle avec des gens, puis ils prennent conscience du nombre d'heures que je peux travailler dans une semaine. Puis il y a plein de gens ici, vous avez des emplois qui sont exigeants, qui sont demandants. Si cette place-là où vous servez, ça vous passionne, malgré tout ce qu'il y a de moments où tu dis « c'est bon une semaine de vacances quand même », en fait, quand tu reviens, c'est pas lourd parce que tu es passionné. Ce qui nous passionne n'est pas lourd, c'est pas vrai. Ça nous permet de traverser toute la lourdeur qui peut venir avec. Et donc, c'est ça notre prière, c'est ça notre ambition avec le cours. C'est qu'on ait placé cette passion-là dans vos cœurs en saisissant la passion de Dieu pour la mission. Et ça va transformer notre assemblée encore un petit peu plus à l'image de Christ. Parce qu'on va avoir cette passion-là pour la mission locale, mais pour la mission à l'étranger aussi. Est-ce que vous êtes obligé de lire le cours? Non. Est-ce que ce serait une bonne idée de lire le livre, je m'excuse, non. Est-ce que ce serait une bonne idée? Ce serait vraiment une bonne idée. Je vous le dis, John Piper est vraiment plus intéressant que moi. Puis il est beaucoup plus intelligent que moi, puis il s'exprime beaucoup mieux que moi. Fait que je vous encourage à prendre le temps d'aller lire, mais c'est aussi parce qu'à travers le cours, on va vouloir faire des mises en application plus locales. Qu'est-ce que ça veut dire dans la vision de l'Église ici? Et donc, je vais faire des digressions, on va aller ailleurs. Alors, la réponse aussi à ceux qui diraient, je vais juste lire le cours, puisque John Piper est plus intéressant qu'Yannick. Peut-être, mais John Piper, c'est pas le pasteur de l'Église ici. Et donc, la réalité, c'est que nous, on est ensemble en mission. Et donc, ça va s'incarner d'une manière particulière. Donc, on vous encourage aussi, évidemment, à assister au cours. Mais prenez le temps d'aller chercher le livre. Si c'est pas le bon moment pour vous pour le lire, achetez-le, suivez le cours, vous prendrez le temps de le relire plus tard. Je vais quand même m'inspirer énormément de son cours, d'accord? De son livre, énormément. C'est quoi le plan de cours? Bon, il y a une petite question sur les missionnaires. Je ne veux juste pas oublier de mentionner ça. On va en profiter à travers le cours à chaque semaine pour vous présenter des missionnaires que nous supportons financièrement ici. Certains d'entre eux depuis des décennies maintenant, d'accord? Et certains d'entre vous, vous connaissez nos missionnaires. Je serais vraiment sceptique qu'il y a plus que 5-6 personnes ici qui connaissaient vraiment tous les missionnaires qu'on soutient. J'en doute sérieusement que vous savez ce qui se passe puis que vous savez à quel point c'est excitant ce qu'ils sont en train de faire, que ce soit ici au Québec, que ce soit des organismes missionnaires ou que ce soit des missionnaires à l'étranger. Donc, on va prendre le temps de vous les faire connaître au fur et à mesure et parler aussi de la mission locale. Maintenant, c'est quoi le plan de cours? C'est exactement le plan qu'il y a dans le livre. Donc, il est en 3 parties. Dieu au cœur de la mission, le but, la puissance, le prix à payer. Dieu au cœur de la mission, la nécessité, la nature de la mission. Et puis Dieu au cœur de la mission, la mise en œuvre concrète de la compassion et de l'adoration. Puis à la fin de chaque leçon, je vais vous indiquer, dans le fond, quelle portion vous avez à lire pour la prochaine leçon. D'accord? Vous allez avoir ça dans les notes pour la semaine suivante. Puisque c'est la première fois que je le donne, puis qu'il y a des sections qui sont des fois plus conceptuelles un peu, j'ai de la difficulté à être absolument certain, ça va être quoi mon découpage, là. Donc, je vais vous informer au fur et à mesure. Ça va? Ce matin, je ne prendrai pas de questions. Je vais voir comment je vais m'ajuster à travers les semaines. On a un bon groupe. Et donc, peut-être qu'on se réservera un quelques minutes, peut-être un 5-10 minutes à la fin du cours, dans les prochaines leçons, pour avoir des questions, on verra. Vous pouvez toujours m'envoyer des questions par courriel, par exemple. Puis je réponds comme je peux, mais j'essaie de trouver le temps de répondre aux questions. OK, nouvelle réalité au sein du christianisme mondial. Une des choses qui est excitante lorsqu'on étudie la mission, c'est que ça nous sort de notre réalité locale, de notre réalité québécoise au niveau de l'Évangile. C'est pas facile d'annoncer l'Évangile au Québec comme ça l'a été pendant le réveil qu'on a vécu dans les années 60, 70, début 80. Les choses ont ralenti, il y a plus de fermeture, l'ouverture n'est pas la même, d'accord? Et donc, il n'y a pas la même liberté pour annoncer l'Évangile. On ne voit pas des vagues de conversion comme on en a vu dans ces années-là. Mais c'est une réalité qui est très présente un peu partout en Occident, particulièrement en Amérique du Nord, en Europe. C'est cette réalité qui est là. Et ça, il y a quelque chose pour nous qui peut être très décourageant. Ça peut nous donner l'illusion que l'Évangile est en train de ralentir dans le monde. Que tout est au ralentissement, que l'Évangile est en perte de vitesse. Et ce n'est pas du tout la réalité. Donc, une des choses qui peut nous encourager lorsqu'on étudie la mission, c'est de réaliser et de découvrir à quel point, en réalité, l'Évangile est dans une poussée de croissance incroyable. Depuis plusieurs décennies maintenant, en fait, depuis la Deuxième Guerre mondiale, l'Évangile s'est répandu dans le monde, particulièrement dans les pays du Sud. On pense à l'Amérique latine, on pense à l'Afrique, on pense à l'Asie. La Chine maintenant, c'est absolument fou. On pense que dans quelques années, il va y avoir plus de chrétiens qui pratiquent, là, qui vont à l'église à toutes les semaines, tout ça, en Chine que dans les États-Unis. Ça vous donne une idée? D'accord? Donc, c'est énorme. Alors que c'est encore une religion bannie là-bas et qu'il y a encore énormément de persécutions envers les chrétiens chinois en Chine. Mais on estime que, en quelques années, le nombre de chrétiens chinois va dépasser le nombre de chrétiens américains. Ça vous donne une idée de la croissance dans le monde. Donc, c'est super encourageant parce qu'au début du 19e siècle, beaucoup de penseurs annonçaient la fin du christianisme, annonçaient la fin des religions, avec la montée de l'humanisme, et annonçait la fin du christianisme. Et des fois, on voit dans notre société, on voit plein de décisions qui sont prises, puis tu te dis, je ne sais pas, c'est comme on va finir vraiment une super minorité, pas seulement au Québec, mais même en Occident, puis en Europe, tout ça. La vérité, c'est que la foi est encore extrêmement présente dans le cœur de l'être humain, à travers un grand nombre de religions, et le christianisme progresse à grande vitesse à travers le monde, contrairement à ce qui avait été attendu. Je vous ai donné quelques chiffres, vous en trouvez beaucoup plus dans le livre, au bas de la page 5. Début du 20e siècle, le christianisme est représenté à 70 % en Europe et en Amérique du Nord. Et à la fin du 20e siècle, c'est seulement 28 % des chrétiens dans le monde qui se retrouvent en Amérique du Nord et puis en Europe. Tout le reste est ailleurs, d'accord, dans le monde, parce qu'il y a eu une croissance énorme. En 1900, on estimait environ 10 millions de chrétiens en Afrique, d'accord, contre 50 % en 2000. Maintenant, c'est toutes dénominations confondues. On va voir que c'est pas parfait au niveau de l'Évangile qui est annoncé. On va en parler un peu ce matin, mais c'est quand même la réalité, d'accord? Le nombre de chrétiens pratiquant en Chine, je l'ai mentionné, pourrait approcher celui qui existe aux États-Unis. Dimanche dernier, il y a plus de chrétiens qui sont allés à l'église en Chine que dans l'ensemble de l'Europe qu'on dit chrétienne. Ça vous donne une idée, d'accord? Donc, l'Évangile avance. Je voudrais dire le mot « prospère », mais je vais me servir du mot « prospérité ». Dans un autre sens, ce ne sera pas long, d'accord? Mais l'Évangile avance, progresse énormément à travers le monde. C'est très, très, très encourageant. Alors, certains vont... Puis ça m'est arrivé là, dans la dernière année, j'ai des gens qui sont venus me voir et m'ont dit « ben, maintenant, ce qu'on devrait faire, c'est juste envoyer de l'argent. On n'a pas de raison d'aller là-bas puisqu'il y a tellement de chrétiens. » Maintenant, l'Église occidentale est plus riche, souvent, que les églises ailleurs dans le monde. Alors, peut-être qu'on devrait juste envoyer de l'argent. Ce n'est pas tout à fait vrai. Je ne peux pas faire un cours sur l'histoire de la mission, d'accord? Ce serait tout un autre sujet. Mais l'histoire de la mission nous enseignait des leçons importantes. On a appris que généralement, la bonne chose à faire, une fois que tu as envoyé des missionnaires à un endroit et que ces missionnaires-là ont vu des gens venir à la connaissance de Christ, sont devenus des disciples, ils ont pris de la maturité, le plus rapidement possible, tu vas former, tu vas t'investir pour former des leaders locaux, d'accord? Parce que, veux, veux pas, lorsque tu viens comme missionnaire, tu arrives avec ta culture, puis tu vas arriver avec un jugement sur l'autre culture qui n'a pas tout le discernement. Dans une culture, que ce soit les traditions, les systèmes de valeurs, n'importe quoi, tout ce qu'on va définir comme étant la culture, la tenue vestimentaire, comment est-ce qu'on se comporte en affaires, tout ça, c'est la culture, d'accord? Lorsqu'on parle d'une culture à un endroit, dans cette culture-là, il y a des choses qui reflètent bien la pensée de Dieu. Si dans une culture, on aide les pauvres, on reflète bien la pensée de Dieu. Mais il va y avoir des choses aussi qui sont complètement opposées à la pensée de Dieu. Par exemple, lorsqu'on est arrivé en Afrique, puis dans certains pays d'Asie, puis qu'on a rencontré la polygamie, il faut faire face à la question, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Bon, la culture apporte quelque chose qui est en opposition avec ce que Christ va nous enseigner. Puis en même temps, dans la culture, il y a des choses qui sont neutres, qui sont ni bien ni mal, mais qui, pour quelqu'un qui vient d'une autre culture, vont peut-être être inconfortables. Et malheureusement, traditionnellement, les Occidentaux envoyaient jusqu'à la fin du 19e siècle, les Occidentaux envoyaient des missionnaires, et puis dans le processus de conversion, d'accord, il y avait la nouvelle naissance, mais il y avait aussi « deviens un Occidental ». Puis ça va être ta conversion. Quand tu vas ressembler à nous, ça va être parfait, tu vas être devenu vraiment un bon chrétien. Ce qui est complètement farfelu, non biblique. Il y a plein de mensonges à travers ça. On pourrait en parler longuement, d'accord? Donc, l'histoire nous a enseigné cela. On a appris ça, et donc on essaie de transmettre le leadership à des leaders locaux le plus rapidement possible. Maintenant, ça ne veut pas dire que la sagesse est qu'il n'y ait plus de présence sur le champ missionnaire, parce que ça prend beaucoup d'années avant qu'une œuvre missionnaire vienne vraiment à maturité. Puis je vais vous donner un exemple concret ici au Québec, avec notre association. Par exemple, notre association, notre église, d'accord? On a un bonhomme qui s'appelle Alexandre Marquis qui est en train de compléter un doctorat en théologie. Bon, bien, Alex, c'est un de nos pasteurs. Pourquoi est-ce qu'Alex est allé faire un doctorat en théologie à l'extérieur du Québec? C'est parce que c'est pas possible de faire un doctorat en théologie évangélique ici au Québec comme il est allé le faire là-bas. Mais on a une terre missionnaire qui a commencé vraiment une œuvre dans les années 1950, et donc, il a pris une belle maturité. 1950-2017, ça fait quand même un bon bout de chemin. On n'a pas encore suffisamment d'institutions fortes qui peuvent amener la formation théologique jusqu'au maximum. Ça vous donne une idée pour le nombre d'années, d'accord? Et donc, les missionnaires occidentaux ont encore un rôle à jouer sur les champs missionnaires étrangers, particulièrement au niveau de la formation, au niveau de l'instruction, afin de garder un discernement qui va être là. Et ce matin, on va l'illustrer avec les 15 minutes qui nous restent en parlant d'une problématique particulière, puis ça va être une bonne illustration. Juste avant ça, je suis en train d'oublier un petit élément. L'autre aspect où l'Occident peut encore jouer un rôle super important au niveau de la mission à l'étranger, c'est pour rejoindre les peuples non atteints, les groupes ethno-linguistiques qui ne sont pas atteints dans le monde. Si vous allez dans les notes à la page 6, aux deux tiers de la page, vous avez un paragraphe où j'ai écrit « On estime qu'il existe approximativement 17 000 groupes ethno-linguistiques dans le monde. » D'accord? Donc, on regroupe les populations à travers ces groupes-là. Près de 7000 d'entre eux ne sont pas atteints avec l'Évangile. D'accord? Près de 7000 d'entre eux. Ça représente environ 3 milliards de personnes. Et si vous avez le livre, vous pouvez aller, il y a une référence avec le site web Project Joshua ou Joshua Project. Vous allez voir vraiment, ils tiennent ça à jour. C'est leur mission à eux de nous garder informés sur l'état actuel de la mission dans le monde. On va parler de différents outils à travers le cours. Je vais vous parler d'un autre outil aussi qui est super intéressant, que je vais vous encourager à prendre pour la prière, mais on va venir à ça plus loin, d'accord? Mais simplement pour dire que ça, c'est un des aspects où les missionnaires occidentaux peuvent contribuer en allant rejoindre ces groupes-là qui ne sont tout simplement pas rejoints. Et il faut aller les rejoindre. Et souvent, ce n'est pas nécessairement le groupe ethno-linguistique le plus près de celui-là qui est le mieux placé pour y aller, parce qu'ils ont une histoire. Ils ont souvent une histoire de conflits qui peuvent être des fois depuis des centaines d'années. Et donc, ils ne sont pas nécessairement les plus bienvenus pour venir annoncer l'Évangile. Pardon, même s'il y a des histoires de réconciliation incroyables et que ça sert à la gloire de l'Évangile, des fois, l'étranger va être plus bienvenu, d'accord, pour aller annoncer l'Évangile-là. Maintenant, un des exemples vraiment, vraiment concrets, c'est toute la question de l'Évangile de la prospérité. Donc, un des rôles qu'on peut jouer, c'est d'aller aider au niveau de l'instruction, former les pasteurs, former les ouvriers, apporter une théologie qui est vraiment solide. Et actuellement, dans le monde, il y a un courant théologique, j'en ai déjà parlé à quelques reprises à l'Église ici, qu'on appelle l'Évangile de la prospérité. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est capable de me résumer en une phrase? Je vais le répéter là, parce qu'on a... Je ne poserai pas de questions ce matin autre que cela. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est capable de me résumer en une phrase, c'est quoi l'Évangile de la prospérité? Yes, Eric.
Donne à Dieu, Dieu va te donner.
Oui, c'est vrai, c'est vrai. Puis je dirais, Dieu va te donner beaucoup, beaucoup. C'est ça. OK, fait que l'Évangile de la prospérité, j'ai une petite définition au haut de la page 7, là. Premier paragraphe, il s'agit d'une vision du salut qu'il associe avec une grande abondance matérielle et une belle santé physique. Alors, selon les prédicateurs de l'Évangile de la prospérité, quand quelqu'un devient chrétien, s'il marche par la foi, il va entrer dans une vie abondante. Jusque-là, même les prédicateurs qui ne sont pas des prédicateurs de la prospérité sont d'accord. Je vous l'ai dit. Tout à l'heure, je vous ai dit, qu'est-ce que je cherche? C'est que vous soyez heureux. Je cherche votre bonheur. À travers le cours, on cherche votre bonheur. On cherche une vie abondante. Maintenant, ce qui s'ajoute avec les prédicateurs de la prospérité, avec l'Évangile de la prospérité, c'est que si tu donnes ton cœur à Dieu, puis si après ça, tu donnes ton temps à Dieu, puis si après ça, tu donnes ton argent à Dieu, Dieu va t'en redonner encore plus. Et Dieu veut que vous soyez riche matériellement. Et si tu marches par la foi, Dieu va te donner la santé. Et si tu n'es pas en santé, il y a probablement un problème avec ta foi dans ça. Si ton compte de banque est vide, c'est peut-être parce que tu ne donnes pas assez à ton église locale. Dans des saisons particulières, des saisons où il faut semer pour récolter énormément. Ça tombe bien, c'est cette semaine. Ça, c'est l'Évangile de la prospérité, d'accord? Ça a l'air ridicule lorsqu'on le dit comme ça. Écoutez, c'est omniprésent. Vous allez dans une librairie chrétienne, je suis sûr que je pourrais en trouver quelques-unes où il n'y a pas un livre qui fait la promotion de l'Évangile de la prospérité, mais il y en a dans presque toutes les librairies chrétiennes, d'accord? Il y en a dans plein d'églises. J'écoute des messages. Moi, je suis d'autres prédicateurs parce que je veux grandir puis je veux avancer. Puis il y a quelques semaines, j'écoutais une prédication puis j'admirais les talents de communicateur du prédicateur. Vraiment exceptionnel. J'ai vraiment des choses à apprendre de lui. Mais j'ai terminé l'exercice puis j'ai dit, c'est l'Évangile de la prospérité qui m'a prêché là. Il n'a même pas prêché le texte. Il est allé à côté du texte. Il l'a tordu puis il n'a pas prêché ce que le passage est en train de dire. Mais la vérité, c'est que l'Évangile de la prospérité est super présent sur le champ missionnaire, en Amérique latine, en Afrique particulièrement, extrêmement présent. On avait des petites statistiques ici qui sont super troublantes. Je vais juste essayer de les retrouver. Oui, justement, c'est au haut de la page 7. Deuxième paragraphe, en 2006, l'Institut Pew a fait un sondage. 85 % des chrétiens pentecôtistes kényans et 95 % des chrétiens pentecôtistes nigériens estiment que Dieu désire accorder la prospérité matérielle à tous les chrétiens qui ont assez la foi. Donc, si tu n'as pas la prospérité matérielle, c'est un problème de foi. D'accord? Maintenant, l'évangile de la prospérité est très présent, particulièrement aux États-Unis, mais il est présent en Occident. Il y a quelque chose de plus vicieux encore avec ça, lorsqu'on parle d'aller prêcher cet évangile-là dans des pays qui souffrent avec la pauvreté, qui souffrent de pauvreté, qui luttent pour survivre. D'accord? Il y a quelque chose de plus pernicieux dans cela, et si je peux faire une comparaison, je vais faire la suivante. D'accord? Imaginez que vous n'avez jamais entendu parler vraiment du christianisme, puis votre premier contact avec le christianisme, c'est « Jésus t'aime, t'es pécheur, t'as besoin de croire en lui pour être pardonné de tes péchés, super bon jusque-là, puis en plus de ça, si tu crois en lui, puis tu marches vraiment par la foi, puis tu donnes beaucoup à ton église, Dieu va remplir ton compte de banque. » Qu'est-ce qui se passe après 10-15 ans où c'est ça que t'as fait? Puis Dieu ne semble pas répondre à ça, mais le pasteur a toujours une plus grosse voiture. Qu'est-ce qui se passe avec toi? Bien, ça se peut qu'il se passe un petit peu ce qui s'est passé avec les Amérindiens ici, au Québec, par exemple, qui ont été évangélisés. Et je parlais avec un missionnaire auprès des Amérindiens, puis il dit, « Tu comprends pas, Yannick. Pour les Amérindiens, le monsieur qui a une croix dans le cou, c'est celui qui abuse les petits-enfants. » D'accord? Fait que quand tu vas leur parler de Jésus-Christ, tu as beaucoup de chemin à faire. À cause des orphelinats ici au Québec qu'on a connus. D'accord? Fait que, il y a comme une espèce de première rencontre avec l'Évangile où toute la beauté de l'Évangile est entachée par quelque chose qui est ajouté, qui est faux. Ça crée une espèce de désabusement dans la population. Quand l'Évangile arrive puis il est frais dans une population qui ne connaît pas l'Évangile, c'est un message absolument glorieux. Encore aujourd'hui, lorsque j'annonce l'Évangile à un ami, Québécois, qui a déjà entendu parler de ça, qui ne croit plus dans la religion. Quand il prend le temps de m'écouter, il dit « Ton message, il est super beau. » Mais quand il pense au christianisme, il y a tout le reste qui vient avec. Et ça, là, je suis désolé, pas capable. Pas capable, l'institution, la religion, tout ça, je ne suis pas capable de ça. Et donc, il y a un danger énorme qui est en train de se produire, qui est en train de se réaliser actuellement avec l'Évangile de la prospérité, parce qu'il est très, très, très présent dans ces pays-là. Et il est pernicieux, il est malsain, il est faux. Souvent, ce qui est malheureux, c'est qu'ils vont prêcher l'Évangile, puis ils vont ajouter autre chose. En définitive, Paul nous dit que ce n'est pas l'Évangile, ça. D'accord? Si tu dis la vérité, puis tu apportes quelque chose qui vient contredire l'Évangile, c'est un faux Évangile. Le problème, c'est que le vrai, il est à quelque part dans tout le message. Fait que les gens manquent de discernement, puis ils disent, « Oui, j'ai compris que Jésus était mort sur la croix pour mes péchés, puis je me suis confié en lui. » Oh, mais ce qui passionne ton cœur, ce n'est pas la gloire de Dieu à travers le sacrifice de Christ. Ce qui passionne ton cœur, c'est l'abondance que Dieu devrait donner à ton compte de banque. Et là, ça veut dire que je ne sais même pas si j'ai un chrétien devant moi. D'accord? En tout cas, si j'ai un chrétien, il y a une méchante idole dans sa vie. Puis ça a été enseigné du haut de la chair, ça. Donc ça, c'est une réalité. C'est une réalité sur le champ missionnaire. Puis on a un rôle à jouer pour pouvoir aller annoncer l'Évangile selon les Écritures, avec vérité. Puis John Piper prend à la fin de son introduction, j'aurai pas le temps de tous les couvrir ce matin, mais à la fin de son introduction, il prend le temps de faire un appel. 12 appels aux prédicateurs de l'Évangile de la prospérité. Je vais juste souligner quelques éléments. Moi, j'ai essayé de faire une synthèse ici, d'accord? Mais je vous dirais que c'est quelque chose qui est tellement présent, même ici au Québec. Là. J'ai le goût de vous dire que si c'est pas 30 % des églises qui, à toutes les semaines, à toutes les deux semaines, à toutes les trois semaines, à quelque part, vous prêchent un évangile de la prospérité, c'est pas mal ça. Si c'est pas ça, c'est plus encore. D'accord? Et donc, c'est pas que ce sont des églises qui n'enseignent pas du tout la vérité. Un grand nombre d'entre elles enseignent vraiment la vérité, mais y ajoutent ceci. Et c'est avec ça, en réalité, qui passionne le cœur des chrétiens. Puis il y a quelque chose vraiment de profondément malsain, dangereux, puis en définitive, souvent, qui ne produit pas des chrétiens. Ça produit des fausses conversions. Et ces gens-là vont abandonner plus tard dans leur course. Alors, quelques-uns des appels de John Piper aux prédicateurs de l'Évangile de la prospérité. Ne prêchez pas un évangile qui place des obstacles inutiles sur le chemin du ciel. Parce qu'évidemment, même si c'est juste Dieu qui peut conduire un âme à la conversion, le Seigneur Jésus nous a dit que pour le riche, il y a quelque chose de plus difficile encore. Et on le voit lorsqu'on parle avec des gens qui sont tellement confortables, tellement appuyés sur leurs compétences, leurs capacités, leurs richesses, qu'il y a une fermeture plus grande à l'Évangile, on le rencontre. L'Évangile a toujours davantage pénétré les couches sociales plus démunies. Ce n'est pas parce que les gens sont moins intelligents, c'est parce que les gens sont un peu plus humbles, d'accord? Un peu plus conscients qu'ils ont besoin de Dieu. Ne prêchez pas un évangile qui suscite des désirs suicidaires. Les Écritures nous disent que les richesses et la poursuite des richesses produisent de grands tourments. La vérité, c'est qu'on est dans une des sociétés les plus riches dans le monde, puis dans une des sociétés où il y a le plus de suicides dans le monde. D'accord? Donc, ce n'est pas l'abondance, la richesse qui règle ces problèmes-là. Au contraire, ça cause énormément de soucis. Ne prêchez pas un évangile qui incite à s'exposer aux mythes et à la rouille. Il y a une espèce de cycle dans les Écritures. On a essayé de couvrir ça à travers la série sur le travail. Il y a un cycle dans les Écritures. On travaille pour pourvoir à nos besoins et ceux qui sont de notre responsabilité, puis pour donner tout le reste. Fait qu'évidemment, la clé, c'est la définition du mot « besoin », là. D'accord? Parce que j'ai des besoins jusqu'à plus pouvoir donner. Mais ça, c'est le cycle qu'on voit dans les Écritures. On travaille pour pourvoir à nos besoins et à ceux qui sont sous notre responsabilité et pour pouvoir donner tout le reste à ceux qui sont dans le besoin. C'est ça qu'on voit à travers tout le Nouveau Testament. On voit ça aussi dans l'Ancien Testament. D'accord? Donc, je travaille fort pour faire des sous. Pas pour être super riche, super confortable, accumuler plein de richesses. Pour pourvoir à mes besoins puis ceux dont je suis responsable, puis pour pouvoir donner le reste pour aider ceux qui sont dans le besoin. Tu trouves ça constamment dans le Nouveau Testament, d'accord? Constamment. L'Évangile de la prospérité va tweaker ça autrement. Elle va dire, va travailler, tu vas faire des sous, puis tu vas donner pour que Dieu te donne plus. On est loin, là. On est vraiment loin. Puis là, quand Dieu va te donner plus, tu vas pouvoir donner plus encore. Puis Dieu va t'en donner encore plus. Puis tu vas pouvoir donner plus encore. Puis Dieu va t'en donner encore plus. C'est tellement fallacieux, c'est tellement comme vicieux, comme cycle. Et vous comprenez, lorsque tu apportes ce message-là dans des pays qui souffrent de la pauvreté, c'est correct de dire, confie ta vie à Christ, marche avec Dieu, Dieu va prendre soin de toi, tu vas trouver une famille, on va s'entraider, Dieu prend soin des siens, Dieu pourvoit aux besoins. C'est correct pour des gens qui souffrent de la pauvreté de chercher une certaine prospérité, tout à fait. Mais de mettre ça au cœur du message de l'Évangile, ça c'est profondément vicieux, ça c'est profondément abusif, d'accord? Et c'est d'aller chercher les gens là où ils souffrent. Puis plutôt que de les approcher de Dieu, on va alimenter ça. C'est comme si on prenait le rêve américain, puis on disait, mais grâce à Jésus, c'est possible pour tous les êtres humains sur la terre. Le rêve américain. Jésus au service du rêve américain universel. Ça ressemble à ça, d'accord? Maintenant, c'est pas glorieux. Je vais devoir m'arrêter ici. Je vous invite à lire les autres éléments. Il y a un élément qui est super important, c'est le point 6. Je termine avec le point 6 puis je m'arrête là. D'accord? Allez au point 6. La faute fondamentale que l'Évangile de la prospérité fait, que ces prédicateurs-là font, c'est qu'ils ne font pas la différence entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, comment est-ce que la mission fonctionnait? C'est « viens voir ce que Dieu a fait en Israël ». D'accord? C'était comme ça dans l'Ancien Testament. Israël devait être une nation prospère, devait être une nation qui manifestait dans toutes ses lois civiles, dans ses rapports entre citoyens, dans son rapport avec l'État, dans son rapport avec Dieu, devait manifester c'est quoi marcher avec Dieu quand Dieu bénit une nation. C'était comme ça. Donc, viens voir comment Dieu les a bénis. À travers ça, tu vas découvrir le Dieu d'Israël, tu vas découvrir sa sainteté, tu vas découvrir qui il est. Puis Jésus vient, puis les Écritures nous disent, après avoir laissé les nations suivre leur cours, faire comme elles le désiraient, Dieu a envoyé Christ, Dieu vient, il envoie Christ, et il nous envoie nous vers les nations du monde. Et là, il y a quelque chose de fondamental qui change. C'est comme si notre vision de l'expérience d'Israël se transposait dans l'éternité pour nous. Puis en attendant, on est juste une gang de missionnaires avec un pack sac sur le dos. Puis on est juste des voyageurs. On est juste des globetrotters. On est des pèlerins. On n'est pas ici pour s'installer. Alors, je suis pas en train de dire que les chrétiens riches sont en train de pécher. C'est pas ça que je suis en train de dire, d'accord? Dieu a donné une prospérité différente à chacun. Les Écritures sont claires. Ceux à qui Dieu a donné plus, c'est pour qu'ils donnent plus. Mais pas pour qu'ils donnent plus, pour que Dieu leur donne plus. Comprenez? Et donc, il y a une méprise qui fait que toute la théologie de la souffrance que j'ai dans le Nouveau Testament, on est des missionnaires, on change de notre croix, on suit Jésus-Christ, on va être persécuté, mais on est rempli de joie parce qu'on a la passion que Dieu a pour la mission. On a la passion que Dieu a pour notre prochain. On veut annoncer l'Évangile. On accepte de vivre inconfortable. Pourquoi? Parce qu'un jour, on va être dans la présence de Dieu. Puis pour l'instant, notre joie, c'est de voir la gloire du royaume se répandre, des gens venir à la connaissance de Jésus-Christ. Notre richesse se trouve spirituellement et dans l'Église, dans nos relations ensemble, beaucoup plus que matériellement. Même lorsqu'il y a des persécutions, on est riche. Ils ne peuvent pas nous enlever ça. Ils nous dépouilleraient toutes nos richesses. Ils ne peuvent pas m'enlever ma passion pour Christ, mon assurance de mon éternité. Ça, c'est la réalité du Nouveau Testament. Et donc, la mission se vit à aller annoncer dans le Nouveau Testament, alors que dans l'Ancien Testament, c'est « Venez voir Israël ». Et les prédicateurs de l'Évangile de la prospérité vont chercher plein de promesses pour Israël. Au lieu de comprendre comment spirituellement ils vont s'appliquer pour l'Église aujourd'hui, ils les transposent aujourd'hui et disent « Ça, c'est des promesses pour nous ». Pas de problème, il faut que tu rétablisses une théocratie, mon ami. Il faut que tu rétablisses une théocratie. Et tu vas réaliser que c'est une autre affaire, c'est pas ce message-là. Mais Christ est souverain, il est en train de bâtir son Église, et actuellement, l'Évangile est en train de se répandre dans le monde à une vitesse fulgurante. Nous, ici en Occident, on a l'impression que l'Évangile est en train de reculer, d'accord? La vérité, c'est que l'Évangile est en train de se répandre à toute vitesse, en train de pénétrer des pays qui sont super difficiles à rejoindre, même des pays où l'Évangile est complètement illégal, que ce soit parce que ça va être un pays plus intégriste musulman ou que ce soit parce que ça va être l'État qui va bannir toute forme de religion, l'Évangile est en train de prospérer, d'avancer dans ces pays-là. Et on a un rôle à jouer comme Église dans notre mission locale, au Québec, puis à travers toute la terre. On va étudier ça ensemble. C'est bon? On va terminer avec un petit mot de prière. Père éternel, merci. Merci pour John Piper, merci pour Monsieur, Madame Beau, merci pour les missionnaires, Seigneur, partout dans le monde qui actuellement sont en train d'annoncer l'Évangile. Merci pour les millions d'églises actuellement, que ce soit en Chine, aux États-Unis, en Europe, au Canada, ici au Québec, Seigneur, en Afrique, en Amérique latine, partout dans le monde, Seigneur, qui sont en train de se réunir aujourd'hui pour t'adorer, te célébrer, Seigneur. Viens nous enseigner ta passion pour la mission, Seigneur. Et viens nous faire comprendre, Seigneur, que ce qu'il y a de plus beau, c'est de voir des gens devenir des adorateurs de Dieu. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen. Ça fait plaisir. Inscrivez votre nom sur la liste d'envoi. Vous pouvez venir voir Annie pour les livres si vous voulez avoir une copie du livre. Merci.